Bonjour Lohan.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue dans notre troisième et dernière émission de Web Radio par les élèves de DP3 du Collège Albert Camus.
Maintenant, on va vous parler de l'économie numérique en commençant par une citation d'Ignacio Ramonet et ouais les gars. Le cyberespace est devenu une sorte de cinquième élément. Le philosophe grec de l'Antiquité, Empédocle, soutenait que notre monde était constitué d'une combinaison de quatre éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. Mais la découverte d'Internet, formée de milliards d'échanges numériques de toute nature, de son streaming et de son clouding, a fait surgir un nouvel univers, pour ainsi dire quantique, qui vient compléter, comme un authentique cinquième élément, la réalité de notre monde contemporain.
Et maintenant, nous allons vous parler de la République française.
Mais non, Claire, de la Révolution industrielle.
Ah oui, où avais-je la tête ? Plus précisément, celle de l'économique numérique.
L'économie numérique regroupe des secteurs des technologies de l'information et de la communication, téléphone, ordi, tablette, etc., mais aussi des services, des logiciels informatiques, des applications mobiles, des jeux vidéo et des téléchargements. Aujourd'hui, cela représente un quart de la croissance de l'économie française.
En plus, de nouveaux produits numériques continuent sans cesse d'apparaître. Exemple, création de nouveaux téléphones. En parallèle, le développement des services numériques, immatériels et encore plus explosifs. L'apparition des smartphones a généré les entreprises 2.0. Ce sont des applications sur mobile payantes ou gratuites. Exemple, Blablacar.
Blablacar, blabla.
Stop, merci Clément pour cette petite virgule musicale. Reprenons notre sérieux. Donc l'autre facette de l'expansion de cette économie numérique, c'est le développement de l'e-commerce. Amazon, vente privée. En France, les chiffres d'affaires ont été multipliés par 3 en 2006 et 2010.
Enfin, c'est une très bonne opportunité pour l'organisation des entreprises. Téléconférences, communication à distance, envoi des commandes, etc.
Maintenant, donnons la parole à Clément et Léa. Mais avant ça, un petit jingle avec « Qui veut gagner des millions ?»
Bonjour et bienvenue dans Qui veut gagner des millions, ou pas exactement en manque de budget. Aujourd'hui, nous accueillons Léa qui habite à Villeperdue, la pauvre.
Bonjour Jean-Clément, bonjour à tous.
Bonjour, jouons à Qui veut gagner des millions, ou pas exactement en manque de budget. Première question pour 800 euros, ou pas exactement en manque de budget. Où est basée l'entreprise de commerce américaine Amazon ? Réponse A, New York. Réponse B, Portland. Réponse C, Californie. Ou réponse D, Seattle.
J'hésite, mais je pense que c'est Seattle. Donc je vais dire la réponse D.
C'est votre dernier mot ?
Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Clément.
Et c'est la bonne réponse ! De plus, aux États-Unis, il y a 400 commandes passées par seconde. Ce qui veut dire que multiplié par 60, ça fait 24 000 par minute. Si on remultiplie par 60, ça donne 1 440 000 par heure. Et on va s'arrêter là, sinon c'est trop dur. Maintenant, le palier passe à 1500 euros. Ou pas exactement en manque de budget. Deuxième question. Par qui et quand a été créé Amazon ? Réponse A. Par Jeff Bezos en 1994. Réponse B. Par Jeff Tuche en 2012. Réponse C. Par Nicolas Sarkozy en 2004. Ou réponse D. Par moi en 2001.
Je vais appeler un ami, Kiki.
Ok, on appelle Kiki. Bonjour Kiki, c'est Jean-Clément pour Qui veut gagner des millions. Léa a besoin de vous pour répondre à une question. Elle va vous la dicter et vous aurez 30 secondes pour y répondre.
La question est, par qui et quand a été créé Amazon ? A. Par Jeff Bezos en 1994. B. Par Jeff Tuche en 2012. C. Par Nicolas Sarkozy en 2004. D. Par moi en 2001.
Pas mounier, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire.
Bon, bah, je crois que je vais prendre la réponse B.
C'est votre dernier mot ?
Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Clément.
C'est la mauvaise réponse. La bonne réponse était la A, qui était Jeff Bezos, en 1994. Amazon fait partie des quatre grands d'Internet, avec, je vous le donne en mille, Apple, Google et Facebook. Et ouais, mon gars.
Merci Clément et Léa pour votre présentation très originale. Nous allons enchaîner avec Amélie et Loane qui vont nous parler de e-santé. Mais tout de suite, une petite pause théâtrale, Knock gratuit.
Eh ben voilà, quand j'ai dîné,
oui,
eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici.
Oui,
oui, ça me chatouille, ou bien plutôt ça me gratouille.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Bonjour à tous. Donc, la e-santé, c'est quoi ? La e-santé se définit comme les services du numérique au service du bien-être de la personne. Elle se définit également comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. Dans la e-santé, on utilise des robots médicaux, c'est-à-dire qu'un robot est utilisé dans le cadre d'une application thérapeutique. Par exemple, lors d'une chirurgie ou au cours d'un programme de réhabilitation neuromotrice. Mais il existe aussi des robots permettant de simuler les symptômes de maladie. Ces robots sont aussi appelés robots patients, car ils restituent le comportement de l'homme. Quand ce dernier a atteint une maladie, ce qui permet aux médecins de s'entraîner sur eux. Le robot Ken, comme le robot Ken, excusez-moi, et tu penses à la même chose que moi ?
Ah oui !
I'm a baby girl, in the baby world, life in plastic, it's fantastic.
Bon, un peu de sérieux maintenant. Donc bonjour à tous, je vais donc vous parler de la toute première opération à distance qui a pris pour nom Lindbergh. Le professeur Jacques Maresco, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et son équipe de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif ont opéré depuis New York une patiente qui était au CHU de Strasbourg. Plus de 7000 km de distance qui a été rendue possible grâce à la téléchirurgie, ce qui n'est pas rien. Il s'agissait d'une première mondiale dans l'histoire de la chirurgie associant la télécommunication à haut débit et la robotique de pointe. L'opération a duré donc 45 minutes. Elle a consisté à une ablation de la vésicule biliaire. Donc, c'est un organe se présentant sous la forme d'un petit sac contenant de la bile. Le chirurgien, situé à New York, a manipulé les bras d'un système robotisé nommé Zeus, conçu par Computer Motion. La liaison entre le robot et le chirurgien était assurée par un service à haut débit sur fibre optique qui était mis en place par France Télécom.
Merci Amélie et Louane pour cette intervention. Et immédiatement, c'est au tour de Kylian et Dimitri de nous présenter la FTLV. On se demande bien ce que c'est.
D'abord, moi je vais commencer par mettre les pendules à l'heure. Que les choses soient bien claires, la Silicon Valley, c'est rien. Rien comparé à la French Tech Loire Valley.
En lien avec l'économie numérique, nous avons deux invités par Skype. Nous allons vous laisser vous présenter. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, d'abord, je vais nous présenter tous les deux. Je suis Julie Maran, de WordUp, agence de traduction. À côté de moi, il y a Stéphane Landre.
Landré.
Ageona, donc sa société. Alors, peut-être que je vais parler de la société.
Ouais, je suis associé de la société Ageona qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Et autour de solutions modernes, innovantes et économiques, puisqu'on a une philosophie, c'est d'utiliser les solutions totalement en mode cloud. Voilà, donc on essaye de transformer les entreprises dans un monde qui est de plus en plus numérique de la façon la plus simple possible.
Donc, alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce que la French Tech Loire-Vallée ? Alors, la French Tech Loire-Vallée, c'est une émanation régionale d'un label national porté par le ministère de l'Économie. Alors, ce label, en fait, a pour vocation d'essayer de construire un mouvement pour la croissance et le rayonnement des startups françaises. Alors, c'est un label qui récompense les territoires qui sont reconnus pour leur dynamisme numérique. Et donc, il fédère l'ensemble des acteurs du numérique. Donc, ça peut être les entrepreneurs, des designers, des étudiants, des investisseurs. Voilà, c'est très large. Être labellisé, c'est intégrer un réseau d'excellence, donc au niveau national. C'est aussi disposer d'un fonds d'investissement French Tech. Donc, c'est à peu près 200 millions d'euros, d'après ce que j'ai pu voir. Justement pour dynamiser la région.
Alors 200 millions d'euros, je crois que c'est quand même, ça ne doit pas être un fonds régional, je pense que c'est au niveau national.
D'accord.
Donc il faut relativiser, cette somme peut paraître énorme, répartie sur une vingtaine, on va dire, de postulants, c'est déjà beaucoup moins important, mais c'est important quand même.
Et alors la French Tech Loire-Vallée, donc c'est un regroupement de la ville de Tours et de la ville d'Orléans, donc pour créer une candidature commune pour créer
Quels
une grande région
de l'économie numérique à l'échelon local,
région
nationale,
centre. Alors pour l'instant, c'est vrai que les régions, enfin les grandes métropoles labellisées sont nombreuses tout autour du territoire français, mais en région centre, enfin, centre de la France, il n'y a pas de grande métropole labellisée.
On parle d'une écosphère. En fait, là, on crée une sorte d'écosphère régionale qui passe par Tours et Orléans, mais aussi Bourges, Blois, Châteauroux, Vendôme, voire Chartres, qui est un petit peu plus près de la région Île-de-France.
Voilà. Les grands axes d'excellence, j'essaie d'être assez rapide, mais d'excellence de la French Tech Loire-Vallée, c'est tout ce qui touche aux objets connectés, l'agriculture 3.0, l'écotechnologie, les biomédicaments, voilà, ouais. Le e-tourisme, voilà, c'est quand même assez large.
Quels sont les enjeux de l'économie numérique à l'échelon local, national et international ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau international, je vais aller dans l'autre sens, si je puis me permettre. Donc, au niveau international, de toute façon, on est certain que l'économie numérique, c'est un mouvement de fond au niveau mondial. Aujourd'hui, une société qui veut être implantée mondialement, rayonner mondialement, elle ne peut pas le faire sans s'appuyer sur des technologies autour du web, par exemple. Si elle veut vendre, elle va être forcée d'avoir une dimension de e-commerce, de e-présence. Donc ça, c'est le minimum. Au niveau national, c'est un peu la même logique, sauf que l'économie classique, elle est réputée, elle fonctionnait, on va dire, d'une façon physique assez facilement. Un siège social et des agences en France, au niveau des entreprises, ça marchait relativement bien. Les collaborateurs, ils prenaient leur téléphone, leur voiture, ils allaient d'une agence à une autre. Donc, aujourd'hui, l'économie numérique, ça apporte une dimension de mobilité très importante au niveau national. C'est-à-dire qu'une agence et une région va être beaucoup moins isolée qu'elle l'était. Donc ça, c'est l'enjeu pour moi de l'entreprise au niveau national. Et au niveau du territoire, c'est aussi, ou régional, c'est aussi la même chose. Il y a une forme de désenclavement. On est dans une région, la région Centre-Val-de-Loire, où on a à la fois des villes de taille relativement importante, comme Orléans et Tours, qui sont les acteurs moteurs de cette démarche. Mais il faut penser à d'autres villes. Tout à l'heure, j'ai cité Vendôme, Châteauroux, qui sont un petit peu plus excentrées, qui sont un peu moins grandes. Et au-delà de ça, là, on a encore des villes. On a aussi des villages, de la ruralité. Et ce n'est pas parce qu'on a de la ruralité qu'on a des petites agglomérations qu'il n'y a pas d'économie et que les gens qui les composent, les citoyens qui y sont, ne sont pas des acteurs économiques. Donc, les enjeux d'être dans une logique French Tech, c'est d'apporter à tout un chacun les avantages, les arguments et les éléments moteurs pour être présent, moderne, innovant et être en capacité d'affronter l'avenir d'une façon plus sereine que sans.
Si on s'intéresse plus particulièrement à vos missions, qu'est-ce que le labo et Ageona ?
Alors, je vais commencer par la présentation du labo et puis Stéphane, tu continueras sur Ageona. Alors, le labo, c'est ce qu'on appelle un lieu totem. Le labo est basé à Orléans, sur les bords de Loire. C'est environ 14 000 m² d'espace disponible, dont 1 000 m² de... Enfin, 9 000 m² de bureaux, je crois.
Il y a 9 000 m² globaux et aujourd'hui d'équiper voilà. 3 000 m², je pense.
Voilà, c'est ça. Donc, le labo, au labo, on a plusieurs activités. Enfin, il y a le Fab Lab qui va être en bas, une école de code. Toutes les startups qui sont entrées il y a une dizaine de jours maintenant, avec des activités vraiment diverses. Bon, pour moi, c'est la traduction. Pour Stéphane, c'est
le digital. Oui.
Effectivement, toutes les entreprises qui sont au labo ont un lien avec le numérique, avec l'économie numérique.
Ce qui est intéressant, c'est par exemple que Julie et Bérangère, donc de WordUp, ils n'ont pas une entreprise de traduction classique. C'est une entreprise de traduction qui fonctionne dans une logique de transformation numérique des entreprises. Mmh. C'est-à-dire qu'un de leurs premiers marchés, je me prononce peut-être pour vous et tu me corriges, mais c'est quand même, par exemple, de faire en sorte qu'un site web, un site e-commerce, il puisse être, dans les enjeux internationaux et mondiaux dont on a parlé tout à l'heure, de la même qualité présenté en Chine, en Corée, en Afghanistan ou au Chili. Même si ce site est celui d'une entreprise française.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la localisation. On s'adapte au marché cible avec, par exemple, pour la cosmétique, chaque pays a ses propres règles juridiques du marketing. Donc, nous, on doit s'adapter à tout ça et c'est vraiment la qualité de notre agence à nous.
Voilà. Pour ce qui est d'Ageona, donc qui est une entreprise parmi d'autres, hein, puisque je crois qu'on est aujourd'hui une trentaine d'entreprises. Je pense qu'on sera très rapidement plus de 50, voire 70 dans les locaux. Aujourd'hui, Ageona, c'est une entreprise qui a déjà 5 ans d'âge, mais qui a une logique d'accélération. Nous, on est dans une logique où on est en accélération, c'est-à-dire qu'on est implanté, on a une clientèle. Et le labo, ça nous permet d'avoir une exposition résolument moderne, dynamique et visible par rapport à nos clients qui sont des entreprises de taille moyenne ou assez grande et des collectivités territoriales, des communes, des départements et donc qu'ils puissent nous identifier comme des acteurs qui sont des acteurs avec un certain niveau d'excellence par rapport à leur métier. Notre métier, c'est effectivement de moderniser, participer à l'innovation, faire s'intégrer les acteurs traditionnels dans une logique moderne qui tient compte des nouveaux enjeux d'un monde plus digital. Donc, on offre des solutions, des services et des produits qui permettent aux entreprises de se transformer pour être en adéquation avec les nouvelles contraintes d'un monde numérique.
Quel profil de salarié recherchez-vous aujourd'hui et dans 5 ans ?
Alors nous, pour mon activité, parce que je vais parler pour mon activité, déjà on va rechercher des profils beaucoup plus... je parle pour la traduction. Beaucoup plus... comment dire ? J'allais dire internationaux, mais des personnes qui, par exemple, qui ont déjà voyagé, qui savent parler anglais avec un très bon niveau. Ça, c'est recherché, je pense, de plus en plus... par beaucoup de sociétés. L'anglais devient un langage primordial hein, dans les échanges numériques, économiques mondiaux. Donc nous, ça va être ça, des profils vraiment aguerris au numérique, qui sont vraiment dans la mouvance digitale. Donc voilà, après, c'est vrai qu'à 5 ou 6 ans, j'avoue qu'on ne voit pas aussi loin, mais... pour nous, déjà, c'est des profils digitaux avec une ouverture sur l'international.
Alors, moi, c'est un peu plus simple pour moi d'en parler, puisque d'abord, je suis père de grands-enfants qui viennent de finir leurs études, des études, on va dire, qui les ouvrent à l'international et au monde moderne, forcément. Donc, aujourd'hui, pour moi, les enjeux, ils sont relativement clairs. Pour vous, pour des jeunes qui doivent choisir une voie demain, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la culture générale autour du monde. C'est-à-dire, on doit avoir une culture mondiale. On doit savoir ce qui se passe dans le monde, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Donc ça, c'est du domaine de la culture générale. La plupart de vous, vous avez accès à tous les médias qui permettent d'avoir cette culture et d'essayer d'avoir une culture objective, critique des événements. Pas se fier seulement à ce qu'on entend sur les médias mainstream ou les réseaux sociaux. Développer une culture de l'objectivité
Un esprit critique, en fait.
et critique, avoir un esprit critique par rapport aux informations qu'on vous sert. Donc ça, c'est un point très important. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutement et je continue à en faire beaucoup. Je prends des profils qui viennent de partout dans le monde et ce qui m'importe, c'est que les gens aient une vision qui soit à la fois adaptée à leur personnalité, qui corresponde à une personnalité, mais qui soit relativement critique par rapport aux événements qui se passent. Et ça, c'est un des premiers points. Donc, ce qui est sous-jacent par rapport à ça, dès l'instant où je dis que je prends des gens qui viennent du monde entier, forcément, je prends des gens qui ont un bon niveau de communication, au moins dans deux langues, la langue dans laquelle, du pays dans lequel ils travaillent et effectivement une langue intermédiaire. Et aujourd'hui, force est de constater, c'est l'anglais, mais ça pourrait être aussi l'espagnol, puisque quand on
Le
voyage, on se rend.
chinois
Voilà,
devient.
ou chinois, parce qu'en fonction de l'endroit où on travaille, même par exemple si on prend les États-Unis, si on va dans le sud des États-Unis, il y a plus d'hispanisants quasiment que
Tout à fait.
d'anglophones. Donc, moi, ça ne me choque pas en Californie d'avoir un contact qui parle plutôt espagnol qu'anglais, ça ne me choquerait pas. Bien évidemment, à Singapour, si j'ai mon contact à Singapour qui parle chinois, je souhaite aussi qu'il parle anglais. Mais le Singapourien, j'en ai rien à secouer. Enfin, pardon pour le terme. Mais de principe, j'estime qu'il ne va pas parler français. J'ai des collaborateurs en Pologne. Je ne leur demande pas qu'ils parlent français. Par contre, je leur demande d'avoir un niveau d'anglais qui soit compatible avec le mien, qui n'est pas très bon par ailleurs, mais qui est suffisant. Donc, ça, c'est la langue et c'est le domaine effectivement de Julie. Mais en tout cas, donc, avoir cette facilité de pouvoir discuter à minima, communiquer à minima dans au moins une langue supplémentaire de sa langue native.
Alors Stéphane parle de discuter, mais il y a aussi l'écrit. Vraiment, faites attention. L'orthographe, c'est très important. Je pense que moi, quand je reviens à mes années de troisième, j'avais pas cette notion-là de vraiment l'image que vous véhiculez par juste via votre
Alors,
orthographe,
surtout
via
dans la
une
langue
manière.
native,
Voilà.
surtout dans
Oui, au
la langue
français.
native,
Là,
on
je parle pour
parle,
le français.
voilà, et donc pour un anglais, c'est d'avoir une excellente, un écrit de bon niveau dans sa langue native, un français, avoir un écrit
Tout
de
à
bon
fait.
niveau dans sa langue native. On ne parle pas en mode SMS, etc. On n'est pas sur les réseaux sociaux à longueur de journée dans une entreprise. On a des choses qui sont assez formelles qui doivent passer avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, des collaborateurs. Après, pour être accompagné à l'écrit en langue étrangère, il y a des sociétés, il y a des prestations, les prestations de WordUp en font partie, pour accompagner le contractuel. Mais c'est autre chose. Sur le dernier point, donc la culture numérique et donc les métiers de demain, il faut que vous ayez conscience d'une chose et il faut que vous soyez, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en prise à votre âge, 14, 15, 16 ans, il faut que vous soyez en prise avec les événements du moment. Pourquoi? Parce que les métiers que vous allez avoir à choisir, on va dire, dans les 5 prochaines années, sont très certainement des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Il y en a certainement des balbutiements, c'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant, il faut que vous vous teniez au courant de ce qui aujourd'hui balbutie et qui demain aura certainement une prise forte sur le monde. Je vais donner un exemple. On parle beaucoup des objets connectés aujourd'hui, mais on n'a quasiment pas de personnes qui savent programmer ces objets, qui savent discuter avec ces objets au niveau des langages informatiques. Donc ça, c'est un exemple. Mais d'un autre côté, j'aurais tendance à dire, et là, je vais un peu casser le mythe du digital, mais on a aussi besoin de gens dans tout un tas d'autres métiers. Je vais vous donner un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai équipé de, enfin, l'année dernière, j'ai équipé de tablettes des jardiniers d'une grande ville, parce que pour aller faire les tailles des massifs, au bon moment, en fonction des bonnes essences, etc. On se fie plus seulement au savoir, on va dire, académique du jardinier, ce qu'il a appris à l'école pendant qu'il faisait un CAP, un BEP, un bac pro ou un BTS ou je ne sais quoi d'horticulture. Il va y avoir des essences qu'il ne connaît pas, des fleurs, des arbustes, etc. Ça pour dire que l'impact du numérique, même sur des métiers traditionnels, qu'on soit jardinier, qu'on soit ouvrier du bâtiment, il y aura des impacts autour de ça, mais ça veut dire qu'il faut déjà connaître bien le métier de base, l'horticulture, le BTP, et ensuite ne pas avoir peur de mettre une couche de digital, une couche de langage international. Pourquoi ? Parce qu'un ouvrier du bâtiment, il va pouvoir aller faire un chantier à Dubaï. Il devra être connecté avec son siège social qui est à Houston ou à Washington, à Paris ou à Vienne. Ça, c'est excessivement important. Donc, avoir une vision globale, mondiale de son activité et une vision culturellement ouverte.
Merci à vous. Si on souhaite des infos sur ce que vous avez partagé avec nous, on peut tout vous retrouver.
Au labo et sur Internet.
Pardon, j'avais pas... Oui, voilà, tout à fait.
Et sur les réseaux sociaux.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je remercie Kylian et Dimitri pour cette présentation pertinente de la FTLV. Maintenant, une petite pause musicale avec Irma, et après, on écoutera Héloïse et Lucie.
I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen up with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
Maintenant, nous allons vous parler de son parcours et vous connaissez-vous ses chansons.
Irma est née à Douala, au Cameroun. Elle débarque à Paris en 2003 pour ses études secondaires. Elle a 15 ans et bien déjà du talent. Elle va poster à partir de 2007 des vidéos sur YouTube. Les réactions ne se font pas attendre. Beaucoup de fans veulent en savoir, en avoir plus. Et maintenant, je passe la parole à Héloïse. Pendant l'été 2008, Irma reçoit des courriers électroniques des producteurs alléchés, dont My Major Company, qui tombe sitôt sous le charme du refrain I Know. Dès lors, tout va très vite. En août 2008, la belle inconnue de tous, ou presque, parvient à séduire 416 internautes, coproducteurs, en tout juste 48 heures. Elle réunit autour d'elle 70 000 euros nécessaires pour enregistrer son premier album. Elle signe ainsi son entrée chez My Major Company pour un record jusqu'ici inégalé.
Pour continuer, nous allons vous parler de My Major Company. Et pour les nuls en anglais, My Major Company veut dire ma grande entreprise. Nous remercions nos bilingues.
Cette plateforme de financement participatif a cette création en décembre 2007. My Major Company est un label participatif qui propose aux internautes de soutenir financièrement les jeunes artistes en contrepartie de quoi les internautes touchent une rémunération sur les ventes physiques et numériques de l'album. Je redonne la parole à Lucie.
Depuis mai 2012, un label de musique d'un côté est une plateforme de finances participatives et de l'autre accueille tout type de projet. De 2007 à 2012, la société affirme avoir levé avec sa plateforme 13 millions d'euros sur les différents projets mis en ligne. My Major Company propose un catalogue d'une dizaine d'artistes choisis par la direction artistique. Les internautes peuvent investir des parts de 10 euros sur les artistes en quels ils croient. Une fois la barre des 70 000 euros atteinte, les artistes est envoyé en studio pour sortir son album.
Thank you, Héloïse et Lucie, pour cette présentation d'Irma et de son producteur.
On écoute maintenant l'interview de Syria qui va nous parler de son court-métrage Champagne qu'on peut retrouver sur YouTube.
Alors, bonjour Syria.
Bonjour.
Peux-tu te présenter ?
Alors, je m'appelle Syriac, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e au collège Albert Camus de Montbazon.
Merci, ton expérience nous intéresse, elle est au cœur de l'économie numérique. À partir de ton projet, peux-tu nous expliquer ce qu'est le financement participatif sur Internet ?
Le financement participatif, c'est quand... Donc moi, mon projet, j'ai réalisé un court-métrage avec l'aide d'un ami. On avait besoin d'argent pour pouvoir financer le projet et puis avoir du matériel, et donc du coup grâce à un site internet Ulule on a demandé de l'argent aux auditeurs aux internautes.
Et combien de temps ça t'a pris de réunir cet argent?
À peu près un mois.
Et comment ça marche?
On crée un dossier qui est pour les auditeurs, j'arrête pas de dire les internautes pardon, et en fait on explique qui on est, notre parcours et pourquoi on demande de l'argent pour financer le catering. Donc c'est la nourriture, le défraiement des artistes, le matériel et tout ça.
Et vous mettez ça sur un dossier?
Ouais.
Et si je veux donner de l'argent, comment je fais pour voir le dossier? Enfin, est-ce que je peux le voir déjà?
Ouais, on peut le retrouver sur Ulule en tapant Seventeam, Seventeam. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez aussi aller voir à Terre du Son le 10 juin. Juillet pour la clôture du festival.
Et il sera sur YouTube aussi ou pas?
Ouais, bientôt.
Bah merci Syriac d'avoir répondu.
J'ai juste une dernière question Syriac. Moi je veux bien te donner des sous pour ton court métrage, mais j'ai quoi en échange? Parce que c'est bien beau de donner de l'argent, mais moi si tu me ramènes rien.
En échange, il y a des contreparties.
Alors c'est quoi des contreparties?
C'est quand en échange, en fonction de la somme que tu as donnée, t'as des cadeaux de plus ou moins gros. Donc si tu donnes 5000 euros, tu viens sur le tournage. Si tu
Alors donnes, toi clairement, concrètement, toi c'était quoi tes contreparties?
Je crois que c'était 5 euros, c'était le remerciement sur le Facebook et du groupe. Et puis 20 euros, c'était l'affiche du film. 30, c'était dans le générique du film. Et puis ouais, voilà.
Donc après, plus on augmente, plus il y avait aussi, je crois, de mémoire, vu que j'étais voir, on pouvait assister au tournage, on pouvait avoir des photos dédicacées du tournage, et on pouvait avoir le DVD peut-être aussi.
Ouais, le DVD du making-of, parce qu'il y a un making-of aussi, et puis voilà.
Bah merci.
J'ai juste une dernière question. Si Ulule, ils te transfèrent l'argent, eux, comment ils font pour gagner leur vie?
Ouais, eux, ils prennent 8% de l'argent, donc nous, ils nous ont pris à peu près 50 euros. Et donc, c'est grâce à tous les projets qui sont réussis qu'on gagne, que Ulule gagne de l'argent.
Ok, bah merci Cyrac d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
De rien.
Maintenant, je passe la parole à Maxence et Thomas, mais avant cela, écoutons une virgule qui se nomme Mario.
Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gagner de l'argent via les plateformes de streaming.
Ding ding, petite pause. Le streaming, c'est l'envoi d'un contenu vidéo par le biais d'une connexion Internet. Le plus souvent, le streaming se fait en direct avec une possibilité d'échange avec les spectateurs.
Comme le site Twitch.
Ding ding, petite pause. Twitch est un site qui héberge plusieurs chaînes qui appartiennent à des streamers, qui se filment en direct pendant qu'ils jouent.
YouTube est un cas particulier de streaming, car les vidéos sont enregistrées sur le site. Le spectateur peut regarder le contenu quand il veut. Grâce à ces plateformes, certaines personnes ayant acquis une certaine communauté, followers, viewers...
Ring ring, petite pause. Un viewer, c'est le nom que l'on donne aux personnes qui regardent le contenu.
Merci monsieur, petite pause. Les personnes qui font du contenu peuvent commencer à rentabiliser leurs vidéos, pas comme moi. Comment gagner de l'argent via YouTube ? Afin de pouvoir commencer à gagner de l'argent grâce à vos vidéos, vous devez être en mesure de les rentabiliser. Comment ? À partir de 1000 vues, YouTube propose de la publicité. Autorisez YouTube à placer des publicités dans vos vidéos. Pas de matériel soumis à des droits d'auteur dans vos vidéos. Comment gagner de l'argent via Twitch ? Sur le site Twitch, les streamers sont des joueurs qui se filment, gagnent de l'argent grâce à leurs spectateurs. Ces spectateurs peuvent s'abonner pour soutenir, mais cet abonnement n'est pas gratuit. Il coûte 4,99€. La moitié de la somme est reversée aux streamers et l'autre moitié appartient à Amazon, qui ont racheté le site.
Ring ring, petite pause.
Merci monsieur, petite pause, mais il s'agirait d'apprendre à écouter les autres, car vos camarades nous l'ont déjà expliqué.
Mais pour ceux qui veulent soutenir le streamer comme ils le peuvent, ils ont la possibilité de faire des dons qui reviennent entièrement aux joueurs. Ce don est de n'importe quel montant à partir de 2€. Et c'est grâce à ça que ces petits geeks arrivent à vivre de leur passion tout seuls chez eux.
Eh bien, merci Maxence et Thomas pour cette explication. Donc c'était la dernière chronique de notre dernière émission. Alors nous, les élèves de DP3, on vous remercie de nous avoir écoutés et on s'en va vers de nouvelles aventures. C'était les Clément, Amélie, Léa, Louane, Claire, Kylian, Dimitri, Héloïse, Maxence, Lucie et enfin le petit Thomas.
Hey, oh, oh, oh.